La dernière fois, on a regardé la dernière partie du discours de Jésus. Et dans cette dernière partie du discours de Jésus, Jésus prenait un certain nombre d'images, de paraboles, d'illustrations qui montraient comment se préparer aussi au retour de Jésus. Et j'ai reproduit ici la liste des 8. J'aimerais ce soir en particulier en utiliser deux et peut-être trois aussi, la parabole des 10 vierges auxquelles on fera allusion. Parce qu'il y a dans ces éléments-là, c'est-à-dire dans la deuxième partie du chapitre 24, deux éléments importants qui sont contenus dans ce chapitre et qui sont en filigrane dans ce que Jésus présente, et que j'aimerais relever et faire ressortir au travers de ce qu'il y a dans le texte de Jésus et de ce qu'il y a dans les autres prophéties bibliques. J'aimerais commencer par prendre cette allusion que Jésus faisait à l'époque de Noé. Jésus disait que l'époque de Noé et l'époque du retour de Jésus allaient se ressembler. Au chapitre 24, versets 37 à 39, il dit: « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Il y a donc un parallèle qui est fait entre cette époque où le jugement de Dieu va tomber sur le monde et le moment où Jésus va revenir. Maintenant, dans cet événement, il y a quelque chose d'important. Avant d'y venir, on pourrait imaginer facilement ce qui s'est passé à cette époque-là. Ce qui est particulièrement interpellant, c'est de voir que parmi toute la population du temps de Noé, il y en a 8 qui sont montés dans l'arche. 8. Vous réalisez que c'est une proportion vraiment misérable de voir 8 personnes, c'est-à-dire la famille de Noé en gros, qui monte dans l'arche, qui accepte cette barque de sauvetage, et personne d'autre. Pourtant, on peut imaginer sans difficulté que plein de gens ont travaillé avec Noé à construire ce bateau pendant 120 ans. Ceux qui y ont travaillé ne sont même pas montés dedans. Et pourtant, ils ont entendu Noé leur parler de ça pendant un bon moment. Certains ont peut-être dit que la théorie de Noé n'est pas scientifique. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend aujourd'hui. D'ailleurs, c'était vrai. On comprend qu'à l'époque de Noé, il n'avait pas encore eu de pluie. Le texte nous explique que l'arrosage était un système différent, pas de pluie. Donc, pourquoi est-ce que la pluie viendrait tout d'un coup? Ce n'est pas scientifique, ça. C'est aussi un argument qu'on nous donne. Ce n'est pas scientifique. Et pourtant, est-ce que c'est à mettre de côté? Ou bien Dieu aime trop l'humanité pour la détruire? Le bon Dieu qui a fait les hommes, et qui, etc., pourquoi est-ce que maintenant il va les détruire? Si on l'appelle notre Père, ben, ça ne va pas être un méchant Père qui va détruire tout le monde. Ou bien encore, la vérité de Noé n'est pas nécessairement la vérité pour tous. Tu crois ça, ben, c'est très bien, crois-le, nous on croit autre chose, et puis c'est fini. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire Noé plus qu'un autre? Ou bien encore quelque chose que l'on entend facilement aussi, on ne peut pas laisser un marginal déstabiliser notre société. Avec votre Bible, vous êtes tous des farfelus là, cette espèce de vieux livre. On ne peut pas laisser des gens comme vous ébranler le monde. Enfin, écoutez, nous on a autre chose à faire. C'est souvent la réaction du monde dans lequel nous vivons. Maintenant, dans Genèse au chapitre 7, il nous est dit ceci. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. On apprend donc que cette arche que Noé a construite sur les instructions données par Dieu, c'est Dieu qui va fermer la porte, c'est Dieu qui va déterminer le moment où la porte se ferme. Maintenant, le texte continue et nous est dit: 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Vous remarquez ici quelque chose d'important. Entre le moment où Dieu ferme la porte de l'arche et le moment où l'eau tombe, où le déluge véritablement vient, il y a une période de 7 jours. Alors vous pouvez imaginer, il ne nous est pas donné des détails sur ce qui se passe pendant ce temps-là, mais vous pouvez imaginer ce qui peut arriver. pendant cette période de 7 jours dans la tête de ceux qui sont dans l'arche d'abord. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que c'était une fausse vision? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit? Pendant 7 jours, ils ont eu le temps de tourner ça dans leur tête et de se demander, mais enfin, il ne se passe rien. Tout est comme avant. Et ceux qui sont dehors, au contraire, alors vous les voyez qui se roulent de rire par terre en disant, Noé, ton bateau, il va flotter dans quoi? Il n'a jamais plu. Tu t'es mis dans ta prison, qu'est-ce que tu vas faire? Et vous pouvez imaginer tous les colibets que ces gens lui ont envoyés depuis l'extérieur du bateau pendant 7 jours. À la fin des 7 jours, les discours ont changé, évidemment. Tout d'un coup, Noé, excuse-nous, c'était pour rire. Ah ouais, c'était pour rire. Ben, c'est trop tard. Et de voir finalement que cette foi de Noé a été mise à l'épreuve pendant ce laps de temps où en réalité ceux qui étaient dedans et restaient dedans et ceux qui étaient dehors et allaient rester dehors. Donc il y a un laps de temps là qui est un petit peu particulier et sur lequel on va s'attarder un petit peu. Vous remarquez ici dans le livre de Daniel, dans le dernier chapitre, qui parle des événements de la fin et de la toute fin des temps, il est dit ceci. Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. On découvre une chose qui est importante, c'est qu'à la fin des temps, il va y avoir un moment où ceux qui n'ont pas accepté le plan de Dieu ne vont rien comprendre à ce qui se passe. Ça va crever les yeux, si vous voulez, ça sera des évidences les unes sur les autres, mais les méchants ne comprendront rien. Par contre, il y aura des gens qui auront de l'intelligence et qui comprendront l'intelligence des Écritures, l'intelligence de Dieu. On se retrouve là avec ce dont on parlait l'autre fois, 2 groupes, pas 3, plus d'espace gris. Ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent rien. Ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. J'aimerais prendre la deuxième parabole de Jésus, c'est la parabole du voleur. Matthieu 24. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ça, c'était la parabole de Jésus, invitant à se tenir prêt. Maintenant, il y a par rapport à cette histoire du voleur quelque chose de particulier que j'aimerais souligner. Il dort. Pas le voleur, mais le propriétaire de la maison. Il dort. Pendant qu'il dort, le voleur vient. Et le voleur va faire son travail. Mais l'autre, il dort toujours. Jusqu'au moment où, finalement, il se réveille. Et ce n'est que quand il se réveille qu'il se rend compte de ce qui s'est passé là. Il y a donc tout un laps de temps ici, pendant lequel ses affaires ont disparu de sa maison. C'est fait. Lui ne sait pas encore. Lui n'a pas encore réalisé ce qui s'est passé. Vous remarquez ici qu'il y a encore ce laps de temps, durant lequel celui qui est victime de la chose ne le sait pas, ne l'a pas encore découvert. On retrouve de nouveau cette notion de laps de temps durant lequel quelqu'un ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'est pas au courant, il n'a pas encore découvert que. Mais quand il le découvre, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi Jésus dit, si vous allez dormir, quand vous vous réveillerez, ça sera trop tard. Tenez-vous donc prêt, pas à la fin, mais au début. De façon à ce que ce laps de temps ne nous prenne pas au dépourvu. On découvre par conséquent une chose ici, en rapport avec la parabole précédente et celle-ci, c'est que, alors que sur la terre les choses se passent normalement, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel à l'insu de l'humanité mais qui est déterminant pour l'humanité. Les gens de Noé étaient toujours en train de continuer, comme dit le texte, à faire leur business, leurs affaires, se marier, marier leurs enfants. Mais il y a un moment où quelque chose dans le ciel s'est décidé les concernant, dont ils étaient complètement inconscients. Et nous retrouvons cette idée dans l'image que Jésus prend concernant le voleur. Il se passe quelque chose dans le ciel dont les hommes et les femmes sur la terre sont inconscients. Et pourtant, c'est d'une extrême importance concernant leur avenir et leur salut. J'aimerais prendre d'autres exemples. L'exemple de Sodome et Gomorre. Ce n'est pas un exemple qui a été pris par Jésus, mais j'aimerais prendre d'autres exemples dans les Écritures pour vous montrer que cette notion n'est pas isolée. Elle se retrouve dans de nombreux événements des Écritures. Sodome et Gomorre. Vous vous souvenez que Abraham avait essayé de négocier avec Dieu de sauver Sodome et Gomorre, et finalement, Dieu avait fait comprendre qu'il n'y avait pratiquement pas de juste à Sodome et Gomorre, et que par conséquent, la destruction qu'il avait choisie était finale. Dieu avait envoyé des anges à Sodome et Gomorre pour sortir le seul juste et sa famille qui s'y trouvaient, quelque chose qui ressemble finalement à l'histoire de Noé. Les hommes dont il est question dans le texte sont en réalité les anges. Les hommes dirent à Lot, « Qu'as-tu encore ici ? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri de ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Vous remarquez que quand les anges viennent, il y a une décision qui a été prise de par Dieu concernant la destruction de la ville. La décision est faite. Les anges viennent seulement rescaper Lot, qui est le seul juste de la ville. Mais la décision est prise. C'est une décision qui est arrêtée déjà, avant qu'ils ne viennent. Et maintenant, on voit le laps de temps. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. C'est décidé. Les anges viennent pour le sortir, mais il a du mal à sortir, sa femme encore plus. Les anges viennent, l'attrapent par la main, prennent tous ces gens, et hop, tout le monde dehors. Et le texte un petit peu plus loin nous dit, « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. » La destruction va arriver une fois que Lot sera en sécurité, si on peut dire. Mais vous voyez qu'il y a un laps de temps qui sépare le choix de Dieu de détruire et le moment où le feu tombe. Et les habitants de Sodome et Gomorre sont absolument inconscients de ce choix qui a été fait. Ils continuent à fonctionner comme d'habitude et ils ne savent pas que leur fin est arrêtée déjà. Mais Lot va être rescapé de Sodome et Gomorre. J'aimerais prendre l'image, cette fois-ci, de Jéricho, où le même schéma est extrêmement clair. Vous vous souvenez que c'est la première ville que les Hébreux vont rencontrer en sortant du désert. C'est finalement la première étape de leur conquête de la terre promise. Et il est dit dans Josué chapitre 6, lorsque Jésus lui-même va apparaître à Josué pour lui donner les instructions. « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroula et le peuple monta chacun devant soi. » Vous remarquez ici, une instruction a été donnée sur la manière qu'il fallait procéder pour prendre la ville. Ils vont tourner autour de la ville pendant 7 jours. Dieu a arrêté le sort de cette ville. Vous vous souvenez que dans cette ville se trouvait une femme probablement une prêtresse païenne, qui est appelée une prostituée, Rahab, qui avait reçu les espions qui avaient été envoyés par Israël, qui avait reçu ces espions et qui avait accepté de fonctionner avec eux. Maintenant, elle va être, elle et sa famille, les seuls rescapés, comme on avait des rescapés à Sodome et Gomorre et qu'on en avait aussi au déluge. Mais vous remarquez qu'il y a ici les mêmes éléments. Une décision est prise par Dieu concernant le sort de cette ville. Eux ne le savent pas. Et il y a un laps de temps qui va s'écouler avant que la destruction n'intervienne. Et lorsque la destruction intervient, il y a eu avant le sauvetage d'un individu ou de sa famille, finalement d'un petit groupe de gens que Dieu considère comme sauvables de cette ville, du monde, comme on a vu dans les exemples précédents. On retrouve donc dans tous ces éléments-là les mêmes données, dans des contextes différents, mais les mêmes données. Le festin de Belshazzar, encore un autre événement qui est rapporté dans le livre de Daniel, où on retrouve les mêmes éléments. Au chapitre 5, il nous est raconté le dernier jour de Babylone, avant que Babylone soit prise par les Mèdes et les Perses. Il est dit, « Et toi, Belshazzar, c'est le discours de Daniel. » Belshazzar était en réalité le petit-fils de Nebuchadnezzar. « Tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. » Daniel s'adresse à Belshazzar, qui est un roi très jeune, et qui est là extrêmement arrogant, mais il connaissait ce qui était arrivé à Nebuchadnezzar et comment Nebuchadnezzar s'était converti, son grand-père. Sa mère, d'ailleurs, la fille de Nebuchadnezzar, s'était elle aussi convertie, avait accepté le Dieu d'Israël, avait accepté Yahvé comme son Dieu. Et Daniel lui rappelle, « Tu as su toutes ces choses qui se sont passées. Tu as vu ton grand-père se convertir, tu as vu ta mère se convertir, et tu sais pourquoi. Mais toi, tu as continué avec orgueil. » Il lui dit, « Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. » Et voici l'explication de ces mots. « Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Ce discours est significatif parce que il est prononcé à un moment où Belshazzar faisait une grande fête dans le palais royal de Babylone. Une grande fête assez arrogante parce qu'en réalité, pendant que lui faisait la fête, la ville était assiégée par les Mèdes et les Perses. Mais évidemment, pour lui, Babylone est imprenable, donc on risque rien. Faites-vous votre siège, nous on rigole à l'intérieur. Et il avait 1000 invités avec lui à faire la fête, à boire, etc., en utilisant le matériel du temple de Jérusalem pour faire comprendre « Votre Dieu, il ne vaut pas grand-chose, moi je bois dans ce matériel sacré pour vous. » Et pendant la fête, Dieu va écrire sur le mur. Et il suffit que Dieu écrive sur le mur pour que ça flanque une pagaille terrible dans la salle. On fait finalement venir Daniel qui va lui donner l'explication et lui dire « Écoute mon cher ami, tu as vu comment Dieu a agi, tu as vu comment ces gens se sont repentis et convertis, ton grand-père, ta mère, et toi tu n'as rien voulu savoir. » Eh bien ce n'est pas difficile, Dieu a dit à un moment « Stop ». Mais lui n'en savait rien. Le jour où Dieu a décidé de mettre fin à cette arrogance, il n'a pas envoyé un email à Belshazzar en lui disant « Écoute, ça y est, c'est fini. » Mais il a écrit sur le mur, et quand c'est écrit, c'est trop tard. Daniel lui dit « Voilà, Dieu y a mis fin. Tu as été pesé, tu as été trouvé trop léger. » La balance, c'est un symbole de la justice. On apprend donc qu'il y a un moment où lorsque Dieu décide que c'est fini, un jugement a eu lieu dans le ciel. Dieu a évalué, Dieu a jugé et Dieu a décidé. Mais sur la terre, personne n'est au courant. Surtout pas ceux qui sont concernés parce que, en réalité, c'est le bout, c'est l'extrême bout de la patience de Dieu envers ceux qui savent, qui ont su, qui ont vu, qui ont entendu, qui ont appris, qui ont compris et qui n'ont rien fait. Finalement, Dieu dit stop. Et c'est ce que nous avons encore dans cet exemple-là, où Dieu dit stop, Belshazzar lui fait la fête. Cependant, le texte continue, nous dit, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Voilà, le même jour, ce que Daniel lui a révélé, qui avait été décidé par Dieu, se réalise par la prise de Babylone, dans des circonstances tout à fait inimaginables. C'est cette fameuse histoire où Darius va détourner le lit du fleuve, l'eau va couler à côté de la ville, et son armée va rentrer par le fleuve asséché à l'intérieur de la ville. Vous remarquez une chose, c'est que Belshazzar, le roi et toute sa cour, va être passé au fil de l'épée. Mais Daniel va continuer, étrangement, à fonctionner comme premier ministre du gouvernement suivant. Ce qui est assez inimaginable. Quand une nation, dans l'Antiquité en particulier, prenait possession d'un pays, l'envahissait, il commençait à liquider toute la famille royale et tous ceux qui risquaient de relever la tête et de réclamer une place d'autorité pour ne pas être ennuyé par ces gens-là. Donc, tout ce qui était haute société et famille royale était exécuté. Et voilà que Daniel, qui lui avait un poste important au gouvernement babylonien, se retrouve dans le gouvernement des Mèdes et des Perses avec un rôle encore extrêmement important. Il a été aussi épargné par Dieu, étant considéré comme celui qui était sauvable dans cette affaire. Dans toutes ces histoires, qui sont des pages de l'histoire biblique, nous retrouvons les mêmes ingrédients, constamment. On va continuer la vision d'Ézéchiel auquel on a fait allusion déjà dans une conférence précédente. Cette vision que Ézéchiel a reçue, par laquelle Dieu va le renseigner sur ce qui se passe en réalité dans son peuple. Il en sait une partie, mais Dieu va lui montrer des choses qu'il ne connaît pas. Et vous vous souvenez comment Dieu va agir dans cette vision et lui montrer comment il va agir. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Dieu avait décidé de détruire la ville. Il rassemble ses anges destructeurs pour exécuter son jugement. Mais il dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. » Nous retrouvons encore ici les mêmes ingrédients. Dieu, à un moment, juge. Il juge et il prend une décision. Mais, avant d'exécuter, il y a un certain temps qui se passe. Ceux qui seront exécutés ne sont pas au courant, ne s'en rendent pas compte. Mais il va dire, marquez le front de ceux qui gémissent à cause des abominations. Il y a donc un certain nombre de gens qui, dans la ville, sont sauvables, qui vont être marqués du sceau de Dieu et qui ne vont pas être détruits par Dieu. Il y a donc là encore un reste qui est sauvé, mis à part, mis de côté, préservé. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on va pourvoir au salut de ceux qui sont sauvables, alors à ce moment-là, le châtiment arrive, la destruction arrive, et il dit, voilà, frappez sans pitié, sans miséricorde, c'est Dieu qui exerce son jugement sur Jérusalem. Voyez qu'on retrouve les mêmes éléments. Dieu exerce un jugement. Ceux qui sont sur la terre ne le savent pas. Un laps de temps s'écoule, mais avant d'exécuter le jugement final, un certain nombre de gens sont sauvés, rescapés, marqués du sceau de Dieu. Nous retrouvons donc tout au long des événements la même manière de procéder de la part de Dieu. Alors évidemment, le septième point, il fallait le prendre aussi, c'est la chute de Jérusalem qui nous a préoccupés dans ce chapitre 24 de Matthieu. Dans le cadre de la chute de Jérusalem, nous retrouvons la même chose à plusieurs niveaux. On le retrouve déjà dans le fait que Jésus avait dit, quand vous verrez les Jérusalem investies par les armées, que celui qui lit fasse attention. Et il invitait ceux qui prenaient attention à cela à se sauver. On avait mentionné le fait qu'en 66, les Romains ont déjà fait le siège de Jérusalem et sans raison valable avaient levé le siège, donnant la possibilité à ceux qui avaient lu la prophétie de Jésus de s'enfuir. Un laps de temps s'était passé. Un groupe de gens avait été sauvé avant la destruction finale. Maintenant, j'aimerais regarder une dimension différente où nous retrouvons encore les mêmes ingrédients. Pour cela, j'aimerais me référer à la prophétie de Daniel, chapitre 9. Prophétie à laquelle Jésus lui-même fait allusion dans Matthieu, chapitre 24. Cette prophétie est connue sous le nom de la prophétie des 70 semaines, donnant par là une période qui est véritablement une période de grâce donnée au peuple hébreu. 70 semaines, c'est-à-dire 490 années. Maintenant, lorsqu'un hébreu entend cette période, il y a dedans 7 fois 7. Et 7 fois 7, c'est extrêmement significatif pour un hébreu. On retrouve cette notion-là déjà dans l'Ancien Testament avec le repos du sabbat tous les 7 jours. Et puis ensuite, il y avait tous les 7 ans l'année sabbatique. Et puis toutes les 7 fois 7 ans, la 50e année, ce qu'on appelait le jubilé. Et le jubilé a été utilisé par Jésus pour exprimer quel était son ministère sur la terre. Dans Luc chapitre 4, Jésus va faire référence à l'institution du jubilé, dans laquelle les esclaves étaient libérés, les dettes étaient remises, les propriétés qui avaient été vendues revenaient à la famille d'origine, on remettait les comptes à zéro économiquement et même socialement par rapport aux esclaves qui étaient libérés. Et Jésus va présenter son ministère de cette façon-là, comme un ministère de grâce qu'il apporte à l'humanité. 7 fois 7, la perfection, si vous voulez, de ce ministère de grâce que Dieu étend à l'humanité. C'est la même notion que l'on a dans cette période de 70 semaines, 7 fois 7, 490 ans. Une période donnée, accordée au peuple de Dieu. Maintenant, cette prophétie, nous n'allons pas la regarder en détail maintenant, mais nous savons qu'elle commence dans l'année 457 avant Jésus-Christ, parce que le texte nous donne la date de départ. C'est l'édit qui permet la reconstruction de la ville de Jérusalem. Et l'histoire nous donne la date de 457 comme étant la seule date qui correspond exactement au texte biblique. Vous ajoutez maintenant à cela 490 ans, tenant compte qu'on passe des années avant Jésus aux années après Jésus, et nous arrivons en l'an 34 de notre ère, c'est-à-dire après la mort de Jésus. 34 de notre ère, c'est une date intéressante, c'est le moment où Étienne a été lapidé. Et on pourrait penser, le temps de grâce qui est donné au peuple hébreu devrait s'arrêter, pourrait s'arrêter, au moment où ils ont mis le comble à l'abomination en mettant Jésus sur la croix. On pourrait concevoir que ce temps de grâce alloué au peuple juif s'arrête au moment où ils ont rejeté le Christ, tout simplement, celui qui était annoncé par les prophètes depuis des milliers d'années. Mais non, le temps s'arrête en 34. Non pas au moment où Jésus est mort, mais au moment où les témoins de Jésus vont maintenant être mis à mort, parce que Étienne, c'est le premier martyr chrétien. Autrement dit, ce temps de grâce ne va pas s'arrêter au moment où Jésus va être mis à mort, mais il va s'arrêter au moment où on va non seulement vouloir faire taire le Christ, mais vouloir faire taire le Saint-Esprit qui parle par les témoins de Jésus, et Étienne en est un. À partir de là, nous dit le texte, une grande vague de persécution va avoir lieu et Paul, celui qui sera appelé l'apôtre Paul, sera un des instruments de cette vague de persécution. C'est à ce moment-là que s'arrête ce temps de grâce du peuple hébreu. 34. Mais vous remarquez que la destruction n'arrive que 36 ans après. en 70. Il y a là encore un laps de temps qui s'écoule, alors qu'en réalité la décision est prise. Jésus a annoncé que ce lieu sera laissé désert, votre temple sera laissé désert. Il n'y aura plus ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais il faudra attendre l'an 70 pour que la mise en application tombe à ce moment-là. Une décision a été prise de la part de Dieu. Un jugement a été prononcé. Une sentence va être exécutée. Elle a été prophétisée. Mais il va y avoir un laps de temps entre le moment où ce temps de grâce s'arrête et un moment où l'exécution va avoir lieu. Et puis, il va y avoir aussi un certain nombre de gens qui vont être sauvés de là. Ce sont tous ces chrétiens qui ont accepté le message et la prophétie de Jésus et qui ne périront pas dans la chute de Jérusalem. Ils auront eu l'occasion de se sauver et de partir dans le nord de la Palestine. On retrouve donc à plusieurs niveaux dans la chute de Jérusalem le même schéma, les mêmes habitudes de procéder de la part de Dieu. Le texte de Matthieu chapitre 12 nous parle de cela. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. C'est ce qui se passe en 34 lorsqu'on fait périr ceux qui sont les messagers de Dieu par le Saint-Esprit pour appeler à la conversion. On ne veut plus les entendre, on les fait mourir. Le temps de grâce s'arrête à ce moment-là. Premièrement, un jugement a lieu avant l'exécution de la peine. Ça, c'est pas une invention extraordinaire, mais c'est important de noter que ça se passe aussi comme ça. Deuxièmement, le temps de grâce s'arrête un certain temps avant l'application de la peine et les méchants ne le savent pas. Et numéro 3, un reste fidèle est délivré de la destruction. Maintenant, ces éléments-là que nous découvrons dans les événements de l'histoire biblique, que nous découvrons dans la prophétie, que nous découvrons dans les visions que Dieu donne à ses prophètes, que nous découvrons même dans les derniers moments de Jérusalem, que nous trouvons aussi dans le discours de Jésus au travers des paraboles qu'il utilise, ce sont tous des éléments que nous retrouvons bien évidemment dans les dernières pages de l'histoire de l'humanité en rapport avec la fin des temps. Toutes ces choses n'ont pas été écrites par hasard. Elles sont là aussi pour que nous comprenions comment Dieu agit et comment il agira aussi à la fin des temps. À un certain moment dans le plan du salut, le temps de grâce s'arrête. Nous parlons du retour de Jésus. Jésus, dans Matthieu 24, annonce son retour. Il en donne les signes. Il donne aussi des indications pour savoir comment nous devons nous préparer à son retour. Et il est effectivement sage, de notre part, de prendre au sérieux ces indications pour nous y préparer. Mais avant le retour de Jésus, il y a une échéance à laquelle nous sommes invités à nous préparer et que nous sommes invités, nous, à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important de sonder les Écritures pour être parmi ces gens intelligents qui comprennent ce qui se passe dans le monde alors que les autres ne comprennent rien. Lorsque nous voulons nous préparer au retour du Christ, il faut garder à l'esprit qu'il y a un moment où la grâce de Dieu s'arrête. Après cette échéance, plus personne ne sort de l'arche et plus personne ne rentre dans l'arche. Le livre de l'Apocalypse le décrit aussi, que celui qui est pur se purifie encore, etc. Donc il n'y a plus d'échange entre ces deux camps. Le sort de ces deux catégories de gens est scellé pour de bon. Ainsi, il en sera à la fin. Autrement dit, ce temps de grâce va s'arrêter avant que nous soyons capables de le dire et que le monde autour de nous soit capable de le dire par la gravité des événements qui peuvent se produire. Tout continuera à fonctionner. Et pourtant, une décision aura été prise par Dieu, irrévocable, fixant le sort de chaque individu. Est-ce que ça veut dire que la porte se ferme et que, ah ben voilà, je suis arrivé trop tard. Je voulais bien, mais je suis arrivé trop tard. Je crois qu'il faut comprendre la fin de ce temps de grâce plutôt comme le chômage technique du Christ, si je peux m'exprimer ainsi. L'Épître aux Hébreux nous explique que ce que Jésus est en train de faire dans le ciel, c'est intercéder pour nous. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse nous parlent de ce jugement qui a lieu dans le ciel et dont le monde est tout à fait inconscient. Donc d'un moment où la ligne est tracée, mais elle est tracée non pas parce que un jour Dieu dit « ça suffit », mais parce qu'en réalité, plus personne ne veut changer de côté. Sodome et Gomorre, Abraham a négocié avec Dieu en disant « mais donne-leur encore du temps, il y a sûrement encore des gens là-dedans qui sont sauvables ». Et Dieu lui répond « mais écoute, non, ils se sont endurcis dans leur voie, plus rien à faire ». C'est-à-dire que lorsque l'intercession de Jésus s'arrête, c'est parce qu'en réalité, les hommes, les femmes, les jeunes, les êtres humains ont pris une décision définitive dans leur cœur. La crise finale ne fera en réalité que de révéler le choix que les uns et les autres auront déjà fait dans leur cœur. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa sagesse, a déjà pris sa décision. Et je crois que cette notion est importante parce qu'elle nous permet de voir que le temps dans lequel nous vivons est un temps solennel. Il ne faut pas s'attendre à ce que, lorsque la catastrophe arrive, une catastrophe qu'on va dire planétaire, mondiale, écologique, atomique, mettez l'adjectif que vous voulez, ah bon, à ce moment-là, on va se dire, bon, ben, c'est le moment de se réveiller. Trop tard. Trop tard. Et le nombre d'exemples bibliques est innombrable pour nous montrer que c'est trop tard. C'est trop tard. Il est important de sonder la parole de Dieu maintenant et d'être parmi ceux qui sont intelligents. Dans l'Apocalypse, nous trouvons aussi d'une façon intéressante la description de cet arrêt de Dieu. Et j'aimerais regarder simplement avec vous quelques textes dans l'Apocalypse, sans aller très loin dans l'étude de l'Apocalypse, pour vous montrer à quel point cette ligne se trouve aussi décrite dans le dernier livre de la Bible. Au chapitre 11, il est écrit ceci. « Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » C'est ainsi que se termine le chapitre 11, où il nous est dit, voilà, il est temps maintenant de faire le bilan, de récompenser et de punir en fonction de ce que chacun a fait. Vous remarquez, il est dit ici, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Si vous pensez à ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, le seul moyen de voir l'arche dans le temple, c'est quand le rideau se déchire. Et le seul moment où le rideau s'est déchiré dans l'histoire d'Israël, c'est lorsque Jésus est mort, ouvrant ainsi la voie pour que l'on puisse voir et le lieu saint et le lieu très saint. Et lorsque Jésus est mort, quelque chose s'est cassé là. Un ministère s'est achevé dans le temple. Maintenant, un peu plus loin dans l'Apocalypse, nous trouvons au chapitre 15 les mêmes données. Il est dit, « Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » En réalité, si on prend la structure du livre de l'Apocalypse, il s'agit du texte équivalent dans la structure symétrique. « Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux et les sept anges soient accomplis. » Le temple est de nouveau ouvert et nous dit qu'il est rempli de fumée. Il y a un autre événement dans l'histoire d'Israël où quelque chose de semblable se passe et nous apprenons à quoi ça correspond. Il faut aller dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 5, qui est en réalité le moment où Salomon va faire la prière de dédicace du temple et où Dieu va se manifester, c'est-à-dire le moment où la Shekhinah, dont on avait parlé dans notre première conférence, va descendre sur le temple de Jérusalem. Il est dit ici, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Autrement dit, quand Dieu s'est manifesté là, le service du temple a dû s'arrêter, tout le monde est sorti, et l'intercession qui se fait par le ministère des prêtres s'est arrêtée là. On comprend donc, quand on lit maintenant l'Apocalypse, que lorsque ce temple dans le ciel est ouvert, qu'il se remplit de fumée, on apprend par conséquent que dans le ciel, le ministère d'intercession s'arrête aussi. Et qui dans le ciel remplit ce ministère d'intercession ? Le souverain sacrificateur qui est décrit dans le livre des Hébreux, c'est-à-dire Jésus lui-même. Le jour où Jésus arrête ce ministère, ce temps de grâce est arrêté aussi. On a dans ce même livre de l'Apocalypse un schéma intéressant. Au chapitre 8, il nous est parlé des sept trompettes. Sept anges avec sept trompettes qui font retentir leurs trompettes et l'on voit sur la terre un certain nombre de fléaux qui arrivent d'une façon partielle, au tiers, dit le texte. Maintenant, si vous prenez votre Bible et que vous étudiez ce que la trompette signifie, vous vous rendez compte que la trompette, c'est l'annonce d'un jugement de Dieu. On en a vu un exemple tout à l'heure avec la chute de Jéricho, où les Israélites devaient tourner autour de la ville et sonner de la trompette. Même notion, l'annonce d'un jugement de Dieu. Vous pouvez prendre le texte d'Ésaïe 58 au verset 1, où Dieu invite le prophète à utiliser sa voix, crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette, dit Dieu, et annonce à mon peuple ses péchés. La trompette est donc l'annonce d'un jugement de Dieu qui va venir. Et l'on a au chapitre 8 les sept trompettes qui sont présentées avec les conséquences que cela entraîne, mais partielles. Au chapitre 16, on a dans la symétrie de la structure de l'Apocalypse les coupes, sept coupes qui viennent. Cette fois-ci, les cataclysmes qu'elles enclenchent ne sont pas partiels, c'est entièrement, complètement. Nous montrons par là qu'au chapitre 8, c'était l'annonce, mais qu'au chapitre 16, ce n'est pas l'annonce, c'est l'exécution du jugement de Dieu. Entre l'annonce et l'exécution, entre le chapitre 8 et le chapitre 16, nous trouvons au chapitre 15 cette fin du temps de grâce, le texte que nous avons lu tout à l'heure, qui nous montre que Dieu, selon sa promesse, ne fait rien sans l'annoncer par ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne nous prend pas par surprise. Dieu annonce, Dieu parle, Dieu dit, Dieu appelle. Et vous vous souvenez des textes que l'on a déjà lus précédemment dans les prophètes, où Dieu plaide avec son peuple pour qu'il revienne. Il vous suffit de lire les premiers chapitres du livre du prophète Ésaïe pour voir à quel point Dieu plaide avec son peuple pour qu'il revienne. Mais quand il ne se passe rien, quand il n'y a pas de prise de position, quand il n'y a pas de changement, quand il n'y a pas de réponse, alors à ce moment-là, le jugement va être en conséquence de ça. Et un jour, Dieu va exécuter ses jugements. Mais avant cela, il y aura une ligne qui sera tracée, qui sera la fin de ce temps de grâce. Cette ligne qui va faire qu'il y a deux groupes d'une façon définitive. Mais il y a aussi les réchappés. Cette fin du temps de grâce, ce jugement qui se passe, on en trouve aussi plusieurs références dans le livre du prophète Daniel, bien entendu. Et je voudrais simplement en citer une ici, sans aller beaucoup plus loin, dans Daniel chapitre 7, et clarifier ce texte que l'on comprend souvent, à tort, comme étant un texte qui parle du retour de Jésus. Au chapitre 7, il est dit ceci. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des Jours s'assit. » Et un peu plus loin, « Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » On a donc ici une indication claire qu'il se passe un jugement dans le ciel. C'est là que se trouve l'Ancien des Jours, Dieu le Père. Un jugement dans le ciel. Une délibération pour savoir ce que l'on fait sur la terre avec la situation telle qu'elle est, pour décider le sort de chacun. Et le texte continue, il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples et nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Vous remarquez ici qu'il ne s'agit pas du retour de Jésus sur la terre. Il s'agit du moment où Jésus va voir le Père. Nous sommes toujours dans le ciel. Il n'est pas question d'avoir Jésus revenant sur la terre, mais d'aller à la rencontre du Père. C'est-à-dire qu'en réalité, le jugement dont on parlait tout à l'heure est terminé. Et c'est là, dans ce moment qui est présenté ici par le prophète Daniel, que le Christ reçoit son peuple. Le jugement terminé, on sait maintenant, dans le ciel, dans l'univers, qui est sauvé, qui est perdu. Ou, si vous voulez prendre un langage apocalyptique, le Christ vient maintenant pour prendre son Église. Ayant reçu de la part de Dieu le droit d'épouser son Église, il va descendre sur la terre pour aller la chercher. Ensuite, vous remarquez qu'on retrouve ici les mêmes données dans l'Apocalypse et dans le livre de Daniel. Maintenant, le mot « jugement » fait trembler tout le monde, parce que le jugement, du point de vue humain, les jugements qui se pratiquent maintenant sont toujours des jugements pour savoir quelle condamnation on va avoir. Sans rentrer plus avant dans cette discussion du jugement, j'aimerais simplement lire avec vous un extrait du psaume 96. Plusieurs psaumes parlent du jugement et en parlent de la même manière pour nous faire comprendre que le jugement de Dieu n'est pas la même chose qu'un jugement humain. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on retrouve les martyrs qui soupirent après le jugement de Dieu, qui appellent le jugement de Dieu. « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à prendre vengeance de notre sang ?» Le jugement, c'est ce que les élus appellent, attendent, c'est ce à quoi ils soupirent. Regardez ce texte de psaume 96. « L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres de la forêt poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. » Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Le monde entier se réjouit. En fait, la création de Dieu. Tous ceux qui appartiennent à Christ se réjouissent du jugement parce que le jugement n'est pas d'abord condamnation pour eux. Le jugement est d'abord réhabilitation pour eux. Pour celui qui appartient à Jésus-Christ, qui a réagi lorsque Dieu l'appelle, le jugement est une bonne nouvelle. C'est le moment attendu où Dieu le reconnaît comme son enfant et le sauve. Dans ce sens-là, j'attends avec impatience le jugement de Dieu. Le jugement dans lequel Dieu va reconnaître, grâce au mérite de Christ, que je lui appartiens et que je lui appartiens pour l'éternité. Le jugement est donc pour celui qui croit. Pour celui qui a mis sa confiance dans son Sauveur, la plus belle nouvelle qui puisse arriver. Maintenant, on l'a vu dans les passages précédents, on l'a vu dans toutes les images qui étaient employées, l'époque de Noé, la prise de Jéricho, la chute de Jérusalem, etc. Il y a toujours un reste. Il y a un petit nombre de gens qui vont être rescapés, sauvés, libérés. Et j'aimerais, avant de terminer, regarder un tout petit peu cet aspect-là aussi. Dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, il est dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera point dans leur bouche une langue trompeuse. » On apprend ici quelles sont les caractéristiques essentielles de ce reste, de ceux qui sont sauvés, de ceux qui sont épargnés par la destruction. Ils ne commettent point d'iniquité. Il n'y a point de mensonge en eux. Autrement dit, ce reste, ceux qui sont sauvés, ce petit nombre de gens qui sont rescapés par Dieu, sont ceux qui en réalité ont accepté Dieu comme leur sauveur et en qui Dieu a fait son œuvre. Œuvre de transformation, au point d'éliminer en eux le mal. C'est l'objectif après tout. Dieu, dans son plan, n'a pas seulement prévu de nous pardonner, il a prévu de nous restaurer. C'est un plan complet. Et nous sommes invités à prendre ce plan aussi au complet. Dans l'Apocalypse, nous trouvons cela aussi. Il est dit au chapitre 12, « Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Le reste donc de la postérité de la femme, c'est-à-dire ce reste du reste à la fin, nous apprenons dans l'Apocalypse qu'il a en particulier ces deux caractéristiques, il garde les commandements de Dieu et il retienne le témoignage de Jésus. Autrement dit, si nous voulons faire partie de ce reste, le programme est déjà établi devant nous. Voilà la direction dans laquelle nous sommes invités à aller. Or, vous remarquez qu'aller dans cette direction-là, c'est largement aujourd'hui remonter le courant par rapport au monde dans lequel nous sommes et par rapport même à la chrétienté qui va nous dire « Mais la loi n'existe plus, voyons. Comment est-ce que vous pouvez être encore sous la loi alors que… » Non. Dans l'Apocalypse… Le reste, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. C'est dire que nous sommes dans une situation à la fin des temps qui est quand même assez curieuse. Tout d'abord, le monde continue à fonctionner comme si de rien n'était. Or, nous apprenons que même pendant que le monde fonctionne comme si de rien n'était, Dieu prend une décision et un temps de grâce s'arrête, quelque part dans le temps. Cependant, un reste, un petit reste. Et c'est là ce qui m'inquiète, parce que lorsque je lis le discours de Jésus dans Matthieu 24, dans les versets 30 et 31, j'apprends qu'au moment où Jésus revient, il nous est dit « Toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Toutes. Ce qui veut dire que le retour de Jésus n'est pas une bonne nouvelle pour la vaste majorité des habitants de la terre. Et là, j'ai du mal à le comprendre. À moins qu'en lisant les Écritures, je réalise que la vaste majorité des gens et des habitants de la terre ne sont pas prêts à garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. La majorité des habitants de la terre ne sont pas prêts à recevoir le Christ comme leur sauveur selon le plan de Dieu pour faire partie du reste de ceux que Dieu va effectivement sauver. Et c'est là mon inquiétude. C'est là mon inquiétude parce que naturellement, nous suivons la majorité. Et dans nos démocraties, c'est la majorité qui l'emporte et c'est la majorité qui a raison. La raison du plus fort est toujours la meilleure, écrivait Jean de La Fontaine. Mais dans les Écritures, il n'en est pas ainsi. Dans les Écritures, c'est un reste, un petit reste. Et je me pose la question de savoir... Est-ce que nous voulons faire partie de ce reste ou est-ce que nous voulons aller avec la majorité? C'est beaucoup plus facile après tout. C'est la raison pour laquelle je crois que l'appel que Dieu adresse dans le livre des Actes est un appel qui est encore terriblement valable pour nous aujourd'hui. L'apôtre Paul disait ceci dans sa prédication dans Actes chapitre 17. « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Dieu dit maintenant à tous et en tout lieu de faire ce qui est à faire, c'est-à-dire de se repentir, de façon à faire partie du reste. Se repentir de quoi ? De la liste de toutes les fautes que nous avons commises, sans aucun doute. Mais se repentir de ne pas encore avoir accepté que Jésus soit notre Sauveur, alors qu'il y a 2000 ans, il a déjà donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Se repentir de ne pas encore avoir accepté, finalement, d'être et de vouloir être un enfant de Dieu, de lui appartenir. De ne pas encore avoir réagi alors que la parole crie d'appel pour que nous revenions à lui et que nous nous soumettions à lui. Un Dieu qui est capable de venir sur la croix mourir pour nous n'est pas un tyran, ce n'est pas un dictateur auquel on a soumis à se soumettre comme les dictateurs que nous connaissons dans ce monde. C'est un Dieu d'amour qui donne sa vie pour sauver ses enfants. Ce Dieu-là, c'est celui qui nous appelle aujourd'hui, même si le monde continue à rouler comme d'habitude, sans se préoccuper de savoir le jour où le temps de grâce s'arrêtera. Maintenant, souvenez-vous de ce texte qui disait que les méchants ne comprendront rien. Je ne veux pas être parmi ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. La Bible est suffisamment claire pour que je ne puisse pas me permettre de rester aujourd'hui dans l'ignorance de ces choses et dans l'inactivité par rapport à ces appels de Dieu. Dans l'Apocalypse au chapitre 3, il nous est dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Vous retrouvez dans ce passage de l'Apocalypse les ingrédients aussi du discours de Jésus dans Matthieu 24. L'allusion à cet aspect de voleur et de surprise pour laquelle Jésus nous dit « Tenez-vous prêts ». Se tenir prêt, c'est se souvenir de ce que Dieu a placé dans notre cœur lorsque nous avons entendu la parole et de réagir. De cette manière-là, le retour de Jésus ne sera pas une surprise. Nous comprendrons quand et comment il vient et nous serons parmi ceux qui se réjouissent de son retour, faisant partie de ce reste que Dieu sauve. Le texte de Matthieu 24, écrit il y a 2000 ans, prononcé par Jésus à cette époque-là, annonçait à son peuple de son temps des signes précis pour que dans Jérusalem un reste soit sauvé. Et il a été sauvé. Il ne parlait pas en réalité à des païens, à des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Il parlait à son peuple. Le discours de Jésus à la fin des temps s'adresse aussi à son peuple, à ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Comme pour dire, ça ne suffit pas de porter ce nom-là, il faut faire partie du reste si l'on veut aussi être sauvé à la fin. Les indications que Jésus donne concernant la fin sont suffisamment explicites pour que nous sachions exactement ce que nous avons à faire. Et mon souhait, c'est que le Seigneur mette dans votre cœur de réagir et de vouloir faire partie aussi de ce reste pour faire partie de ceux qui sont sauvés. Je vous invite à terminer aussi par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions ce soir pour les multiples exemples que tu as mis dans ta parole, par lesquels tu nous montres l'immensité de ton amour, de ta patience envers une humanité rebelle. Nous voulons attendre notre Sauveur avec impatience et nous te demandons de mettre dans notre cœur à chacun le désir d'être prêt pour ce jour-là, le désir de faire partie de ce reste. Donne-nous d'être animés de ton Esprit Saint pour comprendre non seulement les temps dans lesquels nous sommes,
mais nous comprendre nous-mêmes et comprendre tout ce qui fait encore obstacle à ton action dans notre cœur pour nous préparer à ton retour. Nous t'en prions au nom du Christ Jésus qui vient bientôt. Amen.